Et donc, à la fin de mon année et demie au Bangladesh, Yves m'explique qu'il sort un livre qui s'appelle Navigateur solidaire aux éditions Isabelle Le Goff. J'en fais sa promo. Et il me dit, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu voudrais pas m'aider à sortir ce livre? Et donc, je me retrouve à faire, en fait, ce que je fais aujourd'hui, à savoir de la promotion, chargé de communication, attaché de presse pour des aventuriers. Voilà. Donc, grâce à lui, je découvre deux choses. Un métier et un milieu qui est celui de l'aventure, de l'exploration et de tout, finalement, ces projets un peu barjots. Et donc, par la suite, voilà, je vais enchaîner des missions avec ces gens-là. Donc, je vais travailler avec... Ça fait un peu le mec qui fait du name dropping, mais Fabrice Amedeo, qui était skipper sur le team Nures Manmut sur le Vendée Globe. Je vais en oublier, c'est sûr, les Lost in the Swell, Christian Clos, Melvin Malender, Wings for Science, les copains de Team Jolokia un petit peu. Voilà, le fond Explore de Roland Jourdain et Sophie Verseletto. Et évidemment, j'en oublie.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Grégoire Chéron. Salut Grégoire.
Bonjour Pierre Arnaud.
C'est sympa de venir, en tout cas ça fait plaisir parce que effectivement c'est depuis le temps de cette crise sanitaire, t'es un des rares qui se déplace venir faire la rencontre, donc ça fait beaucoup de bien.
C'est un plaisir, merci beaucoup de m'inviter.
Ravi de cette rencontre du coup, et ce que je te propose c'est que tu commences par te présenter du coup.
Bien, je m'appelle donc Grégoire, je suis parisien d'origine, personne n'est parfait, 31 ans, et une vie assez banale somme toute, donc des études à Paris, une fac d'économie, sans vraiment savoir pourquoi je la faisais. Et dans cette jeunesse, c'est des choses qui m'ont marqué, on va dire, j'ai fait les scouts marins, voilà, pratiquant mais pas croyant, mais marin. Et un événement qui était assez intéressant, j'ai fini en fait mes études en faisant un stage chez L'Oréal Professionnel. Donc, okay. Ceux qui vendent des shampoings aux coiffeurs. Et je faisais ce qu'on appelle la BI, Business Intelligence.
Okay.
Et je sors de ces 6 mois en me disant, je vais devenir, je vais intégrer L'Oréal et tout. En fait, ça se passe pas comme ça, puisque je vais partir ensuite au Bangladesh pendant un an et demi, dans une ONG. J'étais déjà allé au Bangladesh avec les scouts marins dont je viens de te parler un mois plus tôt dans ma jeunesse, quand j'avais 20 ans. Et là, en fait, je reconnecte avec cette ONG qui s'appelle Whatever. Et je leur propose mon aide parce qu'à l'époque, je cherchais, en fait, à faire un VIE, partir à l'étranger. Je les contacte, je dis, je pourrais vous aider à trouver des financements et tout, etc. Et puis, ils me disent, mais en fait, nous, on va ouvrir un poste au Bangladesh. Et vu que tu connais le pays, tu sais à quel point c'est un peu compliqué là-bas, on te propose de partir. Voilà. Et donc, je me retrouve, après ce stage, après ces 5 ans d'études en fac, à partir finalement un an et demi, 18 mois, dans l'un des 10 pays les plus pauvres au monde, dans une ville qui s'appelle à côté de Chittagong, c'est la ville portuaire du Bangladesh. Et je vais vivre un truc assez fou, donc juste pour expliquer, Whatever, c'est une ONG qui faisait des bateaux utiles, donc des bateaux ambulances, bateaux hôpitaux, bateaux écoles, bateaux de ramassage scolaire, je vais en parler tout à l'heure. Et mes premières semaines au Bangladesh, elles ont été donc sur ce chantier naval que... où j'ai travaillé, qui s'appelle Taratari. Peut-être que ceux qui connaissent un peu le milieu de l'aventure, ça leur parlera. Géré par Yves Mar. Et en fait, je me retrouve à un moment où on lançait un bateau qui était en fibre de jute, fait par Corentin de Châtel-Perron. Et il y avait, en fait, sur cet événement, il y avait donc Yves Mar, dont je vais vous parler, Marc Van Petegem, grand architecte naval de VPLP Design avec Vincent Lorel-Prévost, Roland Jourdain, double vainqueur de la route du Rhum avec sa femme Sophie Verseletto, qui était anciennement directrice du Vendée Globe, et des vieux briscards qui étaient Gérard, c'est des gens qu'on connaît pas, Alain Conant, ancien directeur de Greenpeace France, enfin bref, toute une tripotée de gens. Moi, j'ai 23, 24 ans à ce moment-là. Je débarque au Bangladesh. Et là, il y a cet événement. Il y a tous ces genres, ces stars pour moi. Enfin, ces gens complètement qui ont des vies engagées et tout. Et là, je me dis, waouh, il y a un truc qui se passe. Et donc, bref, je me mets à travailler pour ce chantier naval, pour cette association sur ce chantier naval, avec ce fameux homme qui s'appelle Yves Mar. Yves, c'est un ancien steward d'Air France qui, en 94, récupère une péniche, donc une péniche fraissinée pour ceux qui ça leur parle, et part de France et va aller jusqu'au Bangladesh avec cette péniche. Donc, faut juste imaginer que c'est pas du tout fait pour ça. Je pense que tu dois l'inviter pour ton prochain podcast.
Okay.
Et Yves, donc, déplace le pénis, ils étaient deux. Donc, faut imaginer la Méditerranée, mer Rouge, océan Indien, tout ça. Arrive au Bangladesh et décide de transformer cet hôpital, cette péniche en hôpital flottant.
Oh, okay.
À l'origine, ils voulaient simplement l'amener parce que donc, il faut comprendre que Bangladesh, c'est un pays qui est très, très, très plat. C'est l'un des plus grands deltas au monde par ailleurs. Et donc, il y a des populations qui se trouvent au nord du pays, qui sont sur ce fleuve qui s'appelle le Brahmapoutre. Et en fait, il y a personne qui va les voir. Et la péniche, c'est un bateau plat. Donc, on peut aller loin. Il n'y a pas de tirant d'eau. Et donc, il se dit, en fait, avec des bateaux utiles, bateaux faits pour ça, on peut aller voir. Et donc, à l'origine, il devait laisser la péniche et s'en aller. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Il va rencontrer Runa Khan, qui va devenir sa femme et sa collaboratrice. Voilà. Et ensemble, ils vont créer donc une grande ONG qui s'appelle. Enfin, il l'avait déjà créé avant, mais voilà, Friendship. Cette péniche, ils vont la transformer en hôpital. 7 ans après son arrivée, ils vont trouver les fonds, etc. Et ils vont aller au plus près des populations, de prodiguer des soins, ce qui était un truc de dingue pour eux. Faut imaginer que ces gens, personne va les voir. Ils changent 60 fois dans leur vie d'habitation, parce que dans les endroits où ils vivent, c'est des îles qui se désagrègent, parce que c'est que du limon, voilà, bref. Et donc, depuis, il a construit de ses mains un deuxième bateau hôpital, un catamaran. Ensuite, il a récupéré le Rainbow Warrior, qu'il a frété et devenu, voilà. Donc, 3 hôpitaux flottants, 1 million de personnes traitées, soignées. Et moi, je débarque, en fait, dans cette nouvelle ONG qu'il a créée, Whatever, qui fait des bateaux utiles. Donc, sur cette même idée de bateaux hôpitaux, bateaux ambulances, bateaux écoles, bateaux de ramassage scolaire pour les enfants, bateaux de pêche, etc. Parce que si on travaille sur les bateaux dans un pays qui est le plus grand delta au monde, bah forcément, on améliore leur quotidien.
Et les bateaux qui viennent toujours de l'extérieur?
Alors non, du coup, on les produit localement. Okay. Donc, il y a un centre de formation, etc. Il y a aussi un volet sur le patrimoine naval, parce que donc évidemment on construit avec d'autres techniques, mais il y a aussi un patrimoine naval excellent, incroyable à préserver localement. Et donc à la fin de mon année et demie au Bangladesh, Yves m'explique qu'il sort un livre qui s'appelle Navigateur solidaire aux éditions Isabelle Le Goff. J'en fais sa promo.
Ouais, très bien.
Et il me dit ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu voudrais pas m'aider à sortir ce livre? Et donc, je me retrouve à faire, en fait, ce que je fais aujourd'hui, à savoir de la promotion, chargé de communication, attaché de presse pour des aventuriers. Voilà. Donc, grâce à lui, je découvre 2 choses. Un métier et un milieu qui est celui de l'aventure, de l'exploration et de tout, finalement, ces projets un peu barjots, on va le dire.
Complètement.
Voilà. Ça, c'est, on est fin de l'année 2014.
Ok.
2015. Je me lance pleinement, je me dis que je vais faire ça. Je sais pas à ce moment-là ce que vraiment je fais. Et en 2015, je vais travailler sur 2 projets polaires, 2 projets très complémentaires. La biographie de Paul-Émile Victor. Paul-Émile Victor, j'ai toujours vécu demain chez Robert Laffont. Je vais en parler un instant. Et l'expédition Under the Pole. Alors, Paul-Émile Victor, c'est qui? C'est le grand explorateur polaire du XXe siècle, le fils spirituel de Jean-Baptiste Charcot, qui a créé les expéditions polaires françaises, père spirituel de Nicolas Hulot, qu'on ne connaît plus quand on a 30 ans, quand on a même 50 ans, on ne connaît plus, il est mort en 95,
okay.
Qui était le pote de Cousteau, de Maurice Herzog, de Haroun Tazieff, enfin, c'était cette génération, voilà. Et donc Daphné Victor, fille de et Stéphane Dugast, vont écrire sa biographie, et moi je vais pareil travailler sur la promotion de ce livre. Donc je découvre tout un monde de l'histoire polaire, enfin c'est fabuleux. Et en même temps, expédition Under the Pole 2 de Emmanuel Perrier-Bardou et Guylain Bardou, qui avait passé 21 mois au Groenland à faire des plongées polaires sur la face ouest du Groenland, 300 plongées, 6 programmes scientifiques, 50 d'équipiers qui sont relayés, etc., et qui reviennent au moment de la COP21. Et donc moi, je me retrouve à travailler sur pareil, faire en sorte que ces gens racontent leurs témoignages, donc la promotion de tout ça. Là, je me dis, bon, je suis quand même en train de creuser un sillon dans un milieu. Et donc, en fait, je vais creuser ça à fond.
Ouais.
Et donc, par la suite, voilà, je vais enchaîner des missions avec ces gens-là. Donc, je vais travailler avec... Ça fait un peu le mec qui fait du name dropping, mais Fabrice Amedeo, qui était skipper sur le team Nures Manmut sur le Vendée Globe. Je vais en oublier, c'est sûr, les Lost in the Swell, Christian Clos, Melvin Malender, Wings for Science, les copains de Team Jolokia un petit peu.
Lost in the Swell que j'ai reçu ici, hein, d'ailleurs.
Et voilà, ouais. ils sont super. Bien. Voilà, le fond explore de Roland Jourdain et Sophie Verseletto. Et évidemment, j'en oublie. Et donc aussi le Festival international du film et du livre d'aventure de La Rochelle depuis quelques années. Voilà. Et donc, mon métier, c'est toujours le même. C'est en fait de faire en sorte d'apporter donc mon temps, évidemment, mais mes contacts et mes connaissances pour ces gens qui, je crois, moi, ont un intérêt pour notre société parce qu'ils ils vont là où les gens ne vont pas. Ils font de la science. Ils nous racontent le monde. Ils prennent le pouls de notre monde à des endroits qui sont loin, difficile d'accès, etc. Et de tout temps, on a eu besoin de ces gens en parallèle de ce que fait l'État ou des entreprises pour nous raconter ça. Les reporters de guerre, notamment, s'ils sont si importants, c'est parce qu'ils vont nous raconter aussi ce qui se passe dans les dictatures, etc. Et les explorateurs, c'était ça aussi à l'époque. C'est des gens qui allaient là où personne n'allait. Et donc moi, j'ai ce sentiment que c'est important d'entendre aussi leur discours. Notamment aujourd'hui avec l'écologie, ils nous racontent tout ça. Et donc, moi, en fait, mon métier, ça date un peu de celui qui s'est passé, enfin, ce qui s'est passé au Bangladesh avec Yves, qui est donc au Bangladesh dans un pays très lointain, dont on n'entend pas parler. Et si moi, je peux, avec ma petite pierre, apporter ma petite pierre à leur édifice, et donc les mettre en contact avec des médias, des éditeurs, des sociétés de production, pour faire en sorte qu'on entende parler d'eux et qui en vivent et continuent, et ben j'en serais heureux, voilà. Et donc c'est des gens qui sont passionnants, et c'est ça que, ben voilà, au quotidien c'est assez chouette de bosser pour eux, quoi.
Alors si tu bosses pour eux, redis-moi du coup, tu fais la partie presse, donc t'es pas photographe, tu fais pas la partie de visuel, t'es vraiment sur la notion d'articles, de suivi des bouquins publiés et des films.
Voilà, donc pour que les gens comprennent bien ce que c'est que le métier d'attaché de presse, donc tu l'as dit, hein, y a ce qu'on appelle des gens qui produisent du contenu, donc ça va être les vidéastes, les réalisateurs, etc. Il y a les photographes également, et les journalistes aujourd'hui, donc leur métier c'est évidemment trier l'information, l'analyser. Il a raconté, mais on est des centaines en France, des milliers à attacher de presse et à envoyer des mails aux journalistes. Donc ils reçoivent, je crois, en moyenne 300 mails par jour. voilà, parce que tous les jours, il y a des gens qui disent, par exemple, aux journalistes de l'équipe, voilà, un tel a battu tel record, un tel sort un bouquin sur sa vie, un tel sera présent sur tel événement, voilà. Et donc il y a une quantité d'informations incroyable et donc il faut quelqu'un pour faire l'interface en fait entre le journaliste et le protagoniste, parce que nous on a un rôle, c'est un peu bizarre, si les journalistes m'entendaient ils seraient peut-être pas contents, mais on est un peu des commerciaux de l'information, mais quelque part on est aussi des conseils, parce que j'estime peut-être de manière prétentieuse que je suis un peu un spécialiste de mon milieu, parce que je connais en fait des protagonistes, je connais ce qui se fait dans le milieu, et donc quelque part quand un journaliste vient me voir et me pose une question, à savoir telle personne, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant, etc., ben moi je suis en mesure de lui dire, tant d'un point de vue géographique que par rapport à ses concurrents, par rapport aussi à ce qui s'est passé dans le passé, etc. Et donc j'ai un rôle de conseil, et donc je suis un rôle de facilitateur des deux côtés, pour le journaliste pour atteindre en fait l'aventurier, et pour l'aventurier pour prendre contact et avoir un article finalement dans les médias. Voilà.
Et ensuite, t'en suis certain en particulier régulièrement, ou est-ce que c'est souvent des one-shots quelques mois? Comment ça se passe du coup?
Alors j'ai cette chance que Emmanuel Perrier-Bardou et Guylain Bardou, les fondateurs de l'expédition Under the Pole, me font confiance depuis 2015, donc ça fait 5 ans, donc c'est super chouette. Ils travaillent sur le retour d'Under the Pole 2, et là actuellement il y a l'expédition Under the Pole 3 qui a lieu, j'en parle un instant. Ils sont partis en mai 2017, ils sont allés donc au Groenland, là où ils étaient déjà allés, ils ont traversé le passage du Nord-Ouest. Là-bas, ils ont travaillé sur la bioluminescence et la biofluorescence. Donc, c'est toujours des plongées polaires dans des endroits où personne ne va, et des partenariats avec des scientifiques pour essayer de déceler, voilà, des nouvelles espèces, etc. Ensuite, ils sont allés en Polynésie française. Et là, ça a été un gros, gros, gros programme. Ils ont fait un programme sur les coraux mésophotiques. Mésophotiques, ça veut dire moyennement lumineux. et c'est des coraux qui se trouvent entre moins 30 et moins 150 mètres de profondeur. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Les coraux, ils ont besoin de lumière. Donc c'est très étrange de les voir dans les profondeurs parce qu'il n'y a que 1%, parfois 1, 2, 3, 4% de lumière. Et on a découvert que les coraux qui se font attaquer par l'acidification des océans sont en train de trouver refuge dans les profondeurs des océans. Et donc pourquoi, comment ça se passe? Et donc eux, ils sont allés faire 800 plongées, 4000 échantillons, etc., dans tous les archipels. Donc c'était génial pour eux, hein, c'était beau et tout, mais c'était un gros travail. Et ensuite, ils ont donné ça aux scientifiques du CRIOB, notamment une scientifique qui s'appelle Laetitia Edouin. Et aujourd'hui, ils sont en train d'analyser tout ça. Et le programme s'appelle Deep Hope, parce que c'est l'espoir des profondeurs. Il y aurait peut-être, tu vois, possibilité, je ne sais pas, de reprendre des gamètes de corail dans les profondeurs, de les réimplanter. Voilà, peut-être qu'il y a des super coraux qui sont en train de se développer. Voilà. Premier programme en Polynésie française. Deuxième programme, la capsule, un habitat sous-marin qu'ils ont mis en place à Moorea. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé voilà, un petit module simple à déplacer, pas trop cher, qui puisse être facile d'utilisation, qui ne demande pas des énormes moyens. Voilà. Et ils l'ont mis en place, à 20 mètres de profondeur à Moorea. Donc, ce n'est pas très profond, mais ça, c'est cette qualité de pouvoir être mis partout dans le monde, si on le souhaite, pour faire de la science et pour passer du temps sous l'eau, c'est-à-dire passer 3 jours sous l'eau à regarder les coraux. Et donc, potentiellement, s'il y a des phénomènes, bah, tu peux voir ce qui se passe. Voilà. Et moi, j'ai eu cette grande chance d'aller à Moorea en Polynésie française pendant 3 mois pendant l'expédition pour faire le community management et la relation presse de cette mission capsule. Et le deuxième client qui me fait confiance depuis quelques années, c'est donc le Festival international du film et du livre d'aventure de La Rochelle qui a lieu du 9 au 15 novembre. Et c'est un grand plaisir parce que l'équipe est géniale et en fait c'est un grand rendez-vous pour toutes celles et ceux qui aiment ce milieu de l'aventure et des explorations, tout ça. Parce qu'il y a 90 invités, il y a une quarantaine de films projetés. Et si on veut en prendre plein les yeux, c'est vraiment, et avoir une bouffée d'oxygène, etc., c'est vraiment le lieu de la rencontre, le lieu du partage. Et voilà, surtout en ce moment avec le Covid où on est tous restés enfermés, je pense que ça fait plaisir de se changer les idées.
Et tu pourrais peut-être briefer ceux qui ne connaissent pas ce festival, comment il se déroule et le camp.
Alors, ça sera la 17e édition en novembre. C'est un événement qui a lieu donc à l'espace encore à La Rochelle. C'est donc là, c'est une année un peu particulière avec le Covid parce que ils ont un peu réduit la voilure. Mais donc voilà, c'est toute la semaine avec un point d'orgue le week-end, des projections dans une salle de 800 places. Normalement, il y a une autre salle de 500 places en 4K. Enfin, un truc vraiment, t'en prends plein les yeux. C'est comme si t'étais au cinéma. Voilà. T'as toujours un échange ensuite avec le protagoniste. Donc tu vas avoir l'aventurier ou l'aventurière, le réalisatrice, réalisateur, producteur, etc. qui viennent. Donc il y a un échange avec le public. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu n'es pas dans un rapport de consommation pure. Tu vas vraiment pouvoir et partager avec lui. Et derrière, il est là, tu peux aller le voir aussi, il vend son bouquin, il y a des conférences et tout. Donc, il y a plein de choses. Donc, sur les années normales, on va dire, il y a une librairie, il y a un bar, il y a un restaurant, il y a des conférences, etc. Et il y a ces deux salles de 800 et 500 places. Et donc, c'est le lieu de rencontre. Et il y a aussi pas mal de fois où, en fait, il y a des projets qui naissent grâce à des rencontres entre différents protagonistes parce qu'ils se connaissaient de réseaux sociaux et puis, en fait, ils vont se revoir leur film et puis ils vont se parler et en fait ils vont dire mais faut trop que tu viennes, on va faire ça ensemble et tout. C'est aussi un lieu de création d'aventure.
C'est énorme. Bah, typiquement j'ai reçu Hugues Le Tenier justement sur ce podcast qui a rencontré ou en tout cas qui a formulé une partie de son voyage que tu pourrais écouter aussi notamment grâce à des rencontres qu'il a fait sur un festival équivalent et donc je plus soit tout à fait la notion de mise en relation dans ce sens-là, quoi.
Et j'ai parlé du festival à La Rochelle, mais j'invite tout le monde à aller. Il y en a partout dans la France, en fait. Il y en a eu What a Trip Festival à Montpellier, il y en a à Dijon, les écrans de l'aventure, il y en a à Val d'Isère, il y a à Lons-le-Saunier dans le Jura, les rendez-vous de l'aventure, même à Paris, il y en a à Massy. Voilà, il y en a vraiment, à Lorient. Bref, vraiment, il y en a partout en France. Donc j'invite vraiment tout le monde, ceux qui aiment, à se renseigner et ils vont aimer.
Il y a un lieu en particulier où tu peux suivre les dates des prochaines sorties
Oui, si tu vas sur Festival Aventure, alors j'ai plus l'adresse, on la mettra peut-être, on l'indiquera dans ton podcast, mais il y a donc tu mets Festival Aventure La Rochelle, t'as le site et t'as toute la programmation qui est en ligne. Et la petite information, c'est que cette année, du fait du Covid, tu pourras voir les films qui sont projetés en ligne, mais tu pourras les voir au moment où ils sont projetés dans la salle. Donc c'est du direct live avec un système de broadcast, enfin voilà. Et tu auras les interviews, enfin les échanges entre le public et les protagonistes qui seront filmés et retransmis. Donc tu seras dans ton canapé à chez toi, mais tu pourras suivre quand même le festival. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté de cette année. Ils ont souhaité être agiles sur ce point. Voilà, il y a le grand bivouac aussi qui est à Albertville, qui commence là dans quelques jours. Donc qui a une ligne directrice éditoriale un peu différente de celui-là de La Rochelle, mais hyper intéressante.
Comment tu choisis les aventuriers que tu veux accompagner du coup ? Parce que je suppose qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc comment t'arrives à dire sur l'année je peux en suivre je sais pas 3 ou 4 ou 10 et ce sera ces 10 là ?
Alors en fait non, c'est plutôt un petit marché. Parce que aujourd'hui je dois manger au quotidien, donc je coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est normal, c'est mon métier, j'ai voilà, quelques années d'expérience, etc. Et donc aujourd'hui, des protagonistes, je parle de, voilà, d'aventuriers qui ont des projets assez solides et qui ont cette capacité d'avoir des financements pour faire tout ce dont je parle, la promotion, il n'y a pas tant que ça en fait. Donc c'est un peu, ça peut être un peu difficile de trouver. Après, j'essaye de diversifier à la fois les compétences, donc ça peut être de la relation presse, ça peut être du community management, etc. Mais ça peut être aussi les milieux, c'est-à-dire que je ne me positionne pas que dans le milieu de la mer. Ça peut être vraiment des gens qui font des ultra-trails, de l'alpinisme, ça peut être des kayakistes, ça peut être plongeurs, ça revient de la mer, mais voilà, il y a plein de choses qui se font. Et donc en fait, l'un dans l'autre, on arrive à trouver. Il y a beaucoup de bouche à oreille, évidemment. En revanche, moi, il y a un truc auquel je m'attache. J'ai pas eu trop l'occasion encore d'être confronté à ça, mais je dois être certain que le projet, il n'est pas... Enfin, faut que je sois certain de les intentions de l'aventurier. Parce que moi, je porte la voix de cette personne. Donc ça veut dire que, quelque part, je porte dans mon cœur aussi, comment dire, le projet de la personne. J'en suis devenu un ambassadeur en présentant et je vais me suer à appeler des répondeurs de journalistes. bonjour les journalistes. Non mais je vais porter le truc auprès de gens qui sont mon réseau en fait. Je m'engage en fait. Et si tu veux, si j'apprends que en fait son projet, il en termes de science, il est complètement caduque, enfin nul, parce que souvent c'est un des torts que je peux faire un petit peu, c'est que sous couvert de science ou d'environnement, en fait, les protagonistes vont créer des projets, mais alors qu'en fait, leur seule volonté, c'est juste d'être sur le terrain et de pratiquer leur sport. Et si tu veux, moi, je veux être certain de la démarche de la personne. Et donc, il y a aussi des problèmes, c'est qu'il y a eu des gens qui ont fait des fakes, des expéditions qui étaient mal, voilà, ils ont caché certaines choses, ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas faites, ils disent des choses qu'ils n'ont pas faites, voilà, donc faire attention à ça, parce que voilà, moi j'en serais très déçu derrière, je m'engage, les journalistes ils sont censés donner l'information qui est bonne, si moi je leur donne une mauvaise information, bah c'est ma faute aussi, donc ça c'est le point, voilà. Mais donc en fait c'est beaucoup, pour répondre à ta question, c'est beaucoup de bouche à oreille, beaucoup moi aussi d'être présent sur les événements, et à force en fait de travailler, je suis aussi identifié comme, on est quelques-uns dans le milieu, voilà.
C'est canon. C'est quoi les journaux du coup qui sont les principaux concernés par ce que tu vas raconter ? À qui tu adresses du coup ces fameux 300 mails par jour ?
Alors heureusement, je n'envoie pas 300 mails. Alors bah il y a là on va parler un peu technique, hein, relations presse, mais donc ce qu'on appelle la PQR, donc la presse quotidienne régionale, donc tu vois les Ouest France, Télégramme pour la Bretagne, mais la Dépêche, Sud-Ouest et tout ça. Donc ça c'est la presse locale. Ensuite on a toujours la presse spécialisée. Donc ça peut être Surf Report pour le surf, j'en sais rien, voilà, tout super dans la voile, encore je prends ce truc là parce que je connais bien, mais donc voile magazine, ça, donc c'est après spécialisé, qui est très importante, les deux sont très importants. Il faut pas du tout négliger ce qu'on appelle la PQR. Donc premièrement, il y a la presse quotidienne régionale, ce qu'on appelle la PQR, donc la Dépêche, Sud-Ouest, Ouest France, Télégramme, etc., la Voix du Nord. Eux, ce sont les gens qui sont au quotidien, ils peuvent te relayer localement, et c'est très important de d'être proche d'eux, parce que c'est quand même ton premier cercle, et c'est les gens qui te... Voilà, c'est des entreprises locales, par exemple, qui peuvent t'aider, elles lisent cette presse, donc ils portent ta voix, et ils seront toujours là, donc il faut leur être fidèle. Deuxièmement, il y a la presse spécialisée, donc ceux qui parlent de surf, de vélo, de kayak, etc., c'est vraiment et eux ils connaissent bien ce que tu fais parce que c'est leur métier d'en parler. Et donc ensuite on se rend compte qu'il y a aussi la presse spécialisée, on va dire un peu généraliste. Je sais pas, il y a GéoAventure, récemment sur le net, il y a outside.fr qui est sorti, qui est la version américaine, grands médias américains, Outside, Solid Outdoor, qui est sorti, voilà, sur le web. Outdoor Go, Carnet d'aventure, voilà. Donc ça, c'est un peu la presse spécialisée Outdoor Aventure. Et, un peu plus intello, il y a Relief, que j'adore, trimestriel, magnifique, semestriel maintenant. Voilà, donc tout un panel. Et ensuite, dans la presse nationale, en fait, c'est là où, donc, mon rôle d'attaché de presse prend son sens, c'est que maintenant, j'ai repéré les médias ou les journalistes qui adoraient, en fait, ces thématiques-là. Et donc, chez Libération, il va y avoir un journaliste, il y en a deux qui font, qui ont une sorte de campagne verticale, enfin, voilà, l'hiver à la montagne, je sais pas, ou l'été à la montagne, donc c'est Didier Arnaud et Fabrice Drouzy qui adorent, voilà, la montagne notamment. Je sais pas si je dois citer les journalistes, mais pour dire que il y en a certains dans les rédactions qui aiment beaucoup ça, et donc que ce soit Paris Match, le JDD, le Parisien, etc. En fait, ils aiment ces thématiques-là, et donc moi derrière, je leur propose du contenu et ils le relaient avec plaisir. Et donc c'est là, voilà, c'est chouette. Je vais parler de France Inter avec Daniel Fievé, et qui a cette émission Le Temps d'un bivouac, qui était pendant 7 ans en quotidienne pendant l'été, et qui là est passé en hebdomadaire pendant l'année. Et moi, je trouve ça trop cool. Je suis hyper content pour lui, parce que c'est un ambassadeur de nos thématiques aventure voyage sur une grande antenne qui est France Inter. Donc c'est hyper chouette qu'il soit arrivé en hebdo. Merci France Inter.
Mais d'ailleurs, est-ce que tu penses pas que typiquement avec la nouvelle génération là des aventuriers dont on a parlé effectivement juste avant, t'as pas un regain de la place de l'aventure dans toute la presse qu'on va pouvoir lire au quotidien sur l'année, quoi, et d'avoir au lieu d'avoir 1%, on va être plutôt à 5-10%, je sais pas.
Ouais, alors j'ai pas parlé évidemment de plein de choses comme ce que tu fais, les podcasts et tout le web, mais évidemment les Others, Alex Viséo, enfin je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais voilà, il y a plein de podcasts aussi qui existent et je les salue. Alors moi je n'ai que 31 ans, donc je connais pas le milieu depuis 30 ans, mais je pense qu'effectivement il y a un gros développement du marché, on va dire ça, milieu de l'aventure. Je l'explique pour plusieurs raisons. Déjà, donc, je ne sais pas quel âge tu as, mais moi, je suis la génération Erasmus.
J'ai 29.
Voilà, Erasmus, je crois, a 20 ou 30 ans. Et on est la génération des low cost. C'est-à-dire qu'en fait, depuis les années 90-2000, il y a avant, partir à l'étranger, c'était un plus. Maintenant, c'est devenu, dans ces études, une normalité, avec notamment Erasmus. Donc en fait, on est beaucoup plus habitué à partir à l'étranger. On peut partir avec 300 balles, quasiment, j'ai envie de te dire, 400 euros à l'autre bout du monde. Donc il y a une sorte de démocratisation du voyage, premier aspect. Deuxième aspect, je sais pas si t'es au courant, les réseaux sociaux et la vidéo avec les GoPro. Donc aujourd'hui, avec, encore une fois, 200 euros, tu prends une GoPro et tu peux devenir un YouTuber, tu peux devenir un Instagrammeur, tu peux devenir je sais pas quoi, avec un matériel vidéo très très réduit. Donc l'image aujourd'hui est devenue plus accessible. Alors je dis pas que c'est de qualité, mais tu peux produire du contenu facilement. Deuxième point. Troisièmement, je pense que on est une génération aussi où on se questionne beaucoup sur notre métier. Y a pas mal de gens qui travaillent, des urbains notamment, qui bossent derrière un écran dans des tours et qui se disent mais qu'est-ce que je fous là quoi. Enfin moi je pense il y en a beaucoup qui se disent ça. Donc il y a une remise en question de leur quotidien en termes de travail. Et puis il y a aussi un aspect, c'est l'écologie, l'environnement, être plus proche de la nature, vouloir une vie moins urbaine, etc. Et ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Je pense qu'on est tous d'accord. Et avec le Covid là, je pense que il y en a qui ont eu la chance de pouvoir faire le Covid loin de la ville, et je pense qu'ils ont ressenti ça. Et donc tu mets tout ça dans un shaker, tu mélanges, et derrière t'as une génération de gens qui veulent faire des tours du monde, voyager, mais même si c'est en France ou quoi, qui veulent vivre dans des vannes, et t'en as parmi eux qui deviennent des Mathieu Torder, des Benjamin Ferré, des Elliot Schoenfeld, des gens comme ça, et qui deviennent du coup aventuriers, etc. Et donc, ce développement-là, je le vois aussi par la multiplication des festivals. Tous les ans, il y a un nouveau festival en France qui se crée. La multiplication des médias, on a parlé de GeoAventure, on a parlé de Outside, on a parlé de Relief, il y en a d'autres qui sont sortis, etc., Outdoor Go. Donc ça montre bien qu'il y a un marché. Explora Project, avec qui je travaille, une agence de voyage spécialisée dans les expéditions. Voilà, donc tu peux, si tu ne sais pas comment faire, tu peux partir avec une agence qui va t'aider en fait à devenir autonome en expédition.
Okay.
Explora Project. Et puis récemment, la micro-aventure. La micro-aventure, c'est quoi ? C'est un mot qui a été posé sur un concept très urbain, qui consiste à dire que tu peux partir pas très loin, pour pas très cher, et vivre des sensations très fortes, des émotions, voilà. Pas besoin d'aller en Thaïlande te mettre la tête à l'envers pour vivre un truc de fou. En fait, donc ça, c'est très urbain. Tu peux, par exemple, décider ce soir de ne pas aller dormir chez toi, dans ton lit. Tu vas appeler tes potes, tu vas prendre un RER, tu vas te foutre dans une forêt, je ne sais où, un train, n'importe lequel. Tu vas aller dormir sous la tente, faire un feu n'importe où dans une forêt à l'arrache. Et tu vas vivre un truc tellement différent de ton quotidien. Quand tu vas revenir, certes, tu vas sentir le feu au bureau, mais tu auras vécu quelque chose d'assez assez fou. Pas cher, pas loin et intense. Et donc la micro-aventure, ça c'est un exemple, mais parmi d'autres, ça s'est vraiment développé voilà ces derniers temps. Je vais citer les quelques grands... il y a Deux jours pour vivre, c'est une amie qui fait, ça s'appelle Amélie Delofre. Pour aller voir ce qu'elle fait, je vous en parle dans 10 secondes. Chiloé, qui est aussi à fond, comme beaucoup, je pense, connaissent dans le milieu. Hello Ways, et puis Xavier Bourgois, qui fait The Other Life, c'est un YouTuber qui raconte tout ça. Tous ces gens, ils portent ce message de dire, aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de voyager, pas que à l'étranger. Il y a une nouvelle façon de découvrir la France, une nouvelle façon aussi de pratiquer, qui n'est pas forcément d'aller sur les mêmes sentiers battus. Et qu'en fait, on peut, avec pas grand-chose, vivre des choses fabuleuses. Donc, sortons-nous les doigts. De manière très vulgaire.
Non, mais complètement. Et puis, je pense qu'en plus, avec l'arrivée du Covid, t'as eu, je pense, une prise de conscience des trajets, tu sais, beaucoup plus éco, si tu veux, écologique, quoi. Et donc, historiquement, on prenait l'avion X fois par an, et ça ne gênait pas tant que ça, à part la prise de conscience lente à côté du fait que c'est beaucoup de gaz à émission. Et là, avec le Covid, comme on a été contraint de rester, bah, je pense que, comme tu dis, ça a reformulé un peu l'approche qu'on peut avoir avec tout ça. Donc, ça a accéléré un mouvement qui était déjà en cours avant.
Et il y a Greta Thunberg qui nous l'a tout rappelé. Il y a ce fameux terme suédois ou norvégien, je ne sais plus, qui consiste à dire qu'on arrête de prendre l'avion. Je ne sais pas si tu avais entendu. Ils ont créé un mot pour dire... Je ne connais pas la traduction, mais c'est un mot pour dire ne pas voyager en avion, quoi, un truc comme ça. C'est devenu un concept.
Donc, du coup, l'aventure peut tout à fait se transformer différemment sans avoir l'avion dans ce sens-là. Et la distance, comme tu le disais tout à l'heure. J'avais eu récemment Paul Bonhomme. Paul Bonhomme, c'est un alpiniste qui fait quasi exclusivement sur des massifs français ou autour de la France, quoi.
Dans les Alpes, il y a
de quoi faire. Il y a de quoi faire.
Et même, tu vois, à Paris, par exemple, il y a plein de trucs à faire à Fontainebleau, au niveau de la grimpe. Et donc, il y avait vraiment deux écoles. Celle Fontainebleau, celle plutôt en bloc et celle à Chamonix. Et aujourd'hui, il y a plein de grands alpinistes qui ont fait tous les 4000 alpins. C'est sans fin, quoi.
Et il en faut, je pense qu'il en faut. Sinon, tu laisses tout un pan complètement traîné à côté. Parce qu'on a toujours tendance à voir, comme je suis assez d'accord avec toi, sur le très loin tout de suite. Moi-même, ayant vécu un peu à l'étranger assez loin, c'est vrai que. C'est intriguant, toi, de partir très très loin parce que tu sais pas à quoi ça ressemble finalement, même si t'as des photos, des films, etc. Et donc t'as ce côté qui t'attire par curiosité. Puis en fait, une fois que tu l'as vécu, tu te dis, j'ai peut-être vécu des choses différentes, certes, mais dans le coin sans aller forcément jusque là-bas, quoi.
Ouais, et je voudrais juste faire une petite parenthèse encore, il y en a plein dans ce podcast. Il y a un article récemment dans Uzbek Erika, de Vincent Munier. Grand photographe animalier, etc. Et qui parle en fait de tous les paradoxes de ce qu'il fait. Parce que donc, lui, il a énormément voyagé en avion pour aller sur des terrains loin, que sont le Groenland, des îles pas possibles en Arctique, en Sibérie, etc. À photographier des choses fabuleuses que tout le monde a vues, les bœufs musqués, les lapins tout blancs, je sais pas où, au Canada, la fameuse panthère des neiges avec ses lentissons récemment en Himalaya. Et en fait, il se dit, mais qui est légitime aujourd'hui pour prendre l'avion et faire ça? Il se pose la question aussi de dire, mais mince, en fait, moi, depuis ce que j'ai fait, il y a des dizaines de gens qui vont sur mes traces, photographier ces choses-là. Et il en est un peu dépité parce qu'à la fois, c'est lui qui les a emmenés. Enfin, c'est un exemple, donc les gens le font. Et en même temps, les gens ont son droit de voir ses photos parce que c'est la nature. Voilà, il a un rôle aussi sociétal de montrer la beauté du monde. Et en même temps, il se dit, on est en train de détruire des zones ou déranger des animaux pour les photographier à cause de moi quelque part. Donc c'est très intéressant de voir sa vision qui est lui qui est en plus reclus dans sa baraque en fin fond du Jura, qui sort plus et il se pose des questions existentielles sur sa manière aussi de faire son travail de naturaliste, photographe et tout.
Je reviens sur un point qui m'a intrigué tout à l'heure. Tu parlais effectivement de la Polynésie française, par exemple, avec 3 mois sur place pour faire effectivement tout le relais com. Tu bouges beaucoup avec ces aventuriers ou est-ce que tu fais quand même beaucoup ton travail à distance ?
Alors non, justement, je suis, je vis par procuration, c'est-à-dire que je suis derrière un ordinateur et un téléphone à la longueur de la journée, donc comme beaucoup de gens. Et c'est rare les fois où on m'emmène sur le terrain. Et donc là, avec Under the Pole, je suis allé deux fois en Polynésie d'ailleurs. Et il y a 2 ans, il y a 1 an, et j'ai eu cette chance. Et voilà, donc c'était un peu la première fois que j'allais sur le terrain. Mais c'est normal parce qu'en fait, mon travail il est bureautique, il n'est pas de scientifique, il n'est pas de terrain, il n'est pas de logisticien. Voilà. Après, sur des événements comme le Vendée Globe, la Route du Rhum, le Festival du film d'aventure de La Rochelle, etc., bah, j'ai été amené à aller sur les villages de départ, évidemment, mais pas. Pas sûr, mais d'ailleurs c'est ce pourquoi j'ai moi-même lancé mon propre projet. Je sais pas si c'est la transition que tu veux faire.
Tout à fait.
Mais voilà, donc je me lance. Donc à force, ça faisait donc depuis fin 2014, 2015, ça fait 5 ans donc du coup que je vis par procuration les projets des autres. Et donc à la trentaine, il y a un moment de ma vie, je me suis dit mais donc j'ai deux possibilités. Soit je continue à développer ma société, soit je me lance moi-même dans un projet. Alors, je ne suis pas aussi créatif que mes clients sur des projets d'exploration, voilà. Mais j'ai choisi un projet sportif, qui est celui de la Mini Transat. Alors, qu'est-ce que c'est que la Mini Transat ? C'est une course à la voile qui nous emmène à travers l'Atlantique, en autonomie, en solo, sur des bateaux de 6,50 m. Donc là, c'est assez drôle parce que je fais 2 mètres, ça se voit pas au micro, mais...
C'est ça, j'allais te dire, mais... c'est quand même très drôle.
Je tends le bras, je touche l'avant du bateau.
C'est ça, ouais, d'accord.
Et donc, moi, il y avait beaucoup de gens autour de moi qui la faisaient parce qu'il faut comprendre que c'est un projet qui peut être, et là, je pèse mes mots, je fais attention avec les mots que j'emploie, mais accessible financièrement. Ça reste coûteux, je veux pas, voilà, mais ça reste accessible pour faire un projet d'envergure qui est quand même dangereux et engageant, qui est de traverser l'Atlantique en solo, en course à la voile. Et donc, vu que moi, par ailleurs, je fais du bateau, c'est un truc qui m'a parlé, mes amis en faisaient, j'ai compris que c'était un truc très très fort, et j'ai trouvé ça intéressant à titre personnel de passer de l'autre côté de la barrière, à savoir devenir mon propre... j'aime pas être aventurier, je dis protagoniste, parce que voilà. Et donc, m'entraîner, donc acheter le bateau, le préparer, m'entraîner physiquement, m'entraîner sur l'eau, faire ma recherche de financement et faire ma communication. Tout ça en parallèle de mon travail et quand j'ai le temps avoir une vie perso, ce qui n'est pas facile. Voilà.
Ça fait quand même beaucoup de choses dans la semaine, quoi.
Voilà, c'est assez complet. Et donc je me suis lancé au début de l'année 2020. Donc en fait voilà, en fait ça a commencé. Je suis rentré de Polynésie française en novembre 2019 avec Under the Pole. J'enchaîne avec le festival à La Rochelle. Et là, fin novembre, je me retrouve. Ça faisait un petit moment que ça trônait dans ma tête, et je commence à regarder en fait les skippers et les skippeuses venaient de finir l'édition 2019. Ça a lieu tous les 2 ans, et donc là, je commence à regarder les bateaux. Et je vois qu'ils sont tous en train d'être achetés, vendus. Il y en a plus beaucoup sur le marché. Et en fait, j'avais très très peur. J'avais très très peur de parce que j'avais jamais navigué sur un 1650. J'avais jamais mis les pieds sur un 1650. Je n'ai jamais fait de régate. Je n'avais jamais fait de régate de ma vie. Quasiment jamais de solo. Et j'avais très peur de ne pas réussir à trouver les fonds et à mener ma vie. Et donc là, il y a beaucoup de peur à ce moment-là, d'angoisse. J'en parle à tout le monde. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a marqué, c'est Éric Bélion, skipper qui a fait Bizu sur le Vendée Globe 2016 avec son projet, ouais. Comme un seul homme. Qui a été mon client en 2018 sur la route du Rhum, toujours son expédition Comme un seul homme.
Ouais.
Et Eric, il a plusieurs principes d'action qui sont oser la différence, se faire confiance, innover par la contrainte, exulter, et je sais plus quel est le cinquième. Et en fait, il dit toute sa vie avec ses projets, donc ses projets qui prônent la différence, donc le fait de vivre avec, de travailler, vivre avec des gens différents, et ça permet selon lui d'être plus créatif, plus innovant, et je le crois. Et donc en fait, ce truc qui m'a résonné en moi, c'était se faire confiance et oser la différence. Et donc à un moment, je me suis dit, arrête de réfléchir et genre, vas-y quoi, on verra après. Et donc, j'ai contacté des bonhommes, des skippeuses, des skippers, etc. Et j'ai finalement trouvé un bateau, un Pogo 3, pour ceux qui connaissent, hein, le Mini 887, l'ancien bateau de Benoît Formé, que j'ai rencontré, etc. Et puis, début février, j'ai acheté le bateau. J'étais assez excité. Donc, je le dépasse à Concarneau. Il y a une petite broutille qui se passe à ce moment-là, etc. Et là, paf, Covid.
Ah là là.
Donc 3 mois à pas naviguer, 3 mois à procrastiner, enfin procrastiner à pas avancer quoi. Et puis rapidement, en fait, ça a repris. Donc les entraînements ont repris, les compétitions, les régates ont repris. Et donc voilà, moi je me suis mis dans le bain, j'ai commencé à retrouver mon rythme de croisière, à faire un peu les deux. Donc j'ai refusé des clients pour ma boîte. Des très belles propositions, enfin de demandes de devis du moins. Et on m'a fait une demande de devis pour un skipper du Vendée Globe. J'ai rendu le devis 3 jours plus tard. J'ai rappelé pour dire en fait je vais pas pouvoir le faire et j'ai mal au cœur, mais j'ai préféré ne pas brader le projet plutôt que le prendre et voilà. Donc c'est des choix qui sont durs de refuser des clients. C'est une vie un peu précaire financièrement parlant. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, mais je recommencerai à fond si je devais retourner en arrière, parce que en 6 mois j'ai rencontré plein de gens nouveaux. Et ça, je pense que c'est la plus belle des choses, c'est de rencontrer les humains. J'ai appris des autres, j'ai appris sur moi un peu, mais je pense qu'à la fin de la transat, je pourrais le dire. Et je vais te raconter pourquoi j'ai appris des choses notamment. J'ai vécu des émotions fortes et j'ai aussi embarqué des gens avec moi. Parce que, en fait, la particularité de mon projet, c'est que je suis devenu YouTuber. Je sais pas si tu as vu les vidéos, mais en fait, avec un ami qui s'appelle Victor Rowe, on a lancé une chaîne YouTube, et lui, il est réalisateur, et tous les mois, on fait un épisode, un web documentaire. Ça a commencé, donc là, il y en a 5, le 6e est en cours de montage, et je raconte, on essaie de raconter de manière la plus grande générale, enfin, pour le plus grand nombre, ce que c'est que la mer, la voile, de manière pédagogique, drôle, et on essaie de donner la parole aussi à des spécialistes quand ça s'y prête dans les vidéos. Et donc, je raconte dans ces vidéos l'achat, comment trouver un bateau, etc., la mise à l'eau, la sécurité, les entraînements, ce que c'est qu'une navigation de nuit, etc. Voilà, je t'ai fait les 5 chapitres. Je vous invite vraiment à aller voir, vous tapez mini 887 Grégoire Chéron, vous verrez. Il y a plus de 24 000 vues en cumulé aujourd'hui, donc c'est quand même cool. Voilà.
Ça commence à être,
c'est pour un youtubeur, c'est pas grand chose. Je me considère pas comme youtubeur, mais pour une chaîne YouTube, c'est pas grand chose. Mais je fais mon bonhomme de chemin, voilà. Et donc en fait, ça, il y a plein de gens qui les regardent et je reçois des messages de gens qui aiment et qui me disent, en fait, ça m'inspire et tout. Et donc ça aussi, je trouve que c'est chouette en fait d'avoir, ne serait-ce qu'à ce titre-là, lancé ce projet aussi. Après, c'est la Mitrosat, c'est un truc qui est long et compliqué parce qu'il faut trouver des sous. Je cherche des sous. On est en plein Covid, c'est pas facile. Mais j'ai des via ces vidéos et via ma capacité à être attaché de presse et à proposer aux médias du contenu, je pense que j'ai des arguments. Mais quoi qu'il en soit, c'est très 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 riche. Et donc l'année prochaine, je pars. Donc juste pour parler du parcours, on part des Sables d'Olonne, on va aller jusqu'aux Canaries. On fait une pause d'en gros un mois et ensuite on part jusqu'à la Guadeloupe. Et donc là, il y a, je crois, je suis pas certain, mais c'est 10 jours, 2 semaines pour la première partie et 2-3 semaines pour la deuxième partie. Voilà. Donc j'ai hâte et en même temps c'est dans longtemps, mais en même temps c'est dans très peu de temps parce qu'il y a, comme je l'ai cité, il y a plein de choses à faire. Il faut préparer le bateau, c'est-à-dire le retaper. Il faut être sur l'eau. Je le fais pas assez, je le sais. J'ai un manque de mille crucial. Beaucoup naviguer. Il faut faire des courses pour se comparer aux autres, se progresser. C'est toujours intéressant. Il faut trouver des sous. C'est un gros truc. Et faire ça comme se préparer physiquement. Voilà. Donc c'est hyper complet. On est tout en même temps et en même temps gérer ma boîte. Donc voilà.
C'est complet. Mais t'es basé près de la mer, tu me disais.
Alors en fait j'étais parisien à l'origine, donc je faisais les allers-retours en février, janvier, début mars, tout ça à Concarneau, et en fait avec le confinement je me suis mis à Concarneau et je dois citer mon partenaire technique qui s'appelle Kéros, qui est l'écurie de course au large de Roland Jourdain et Sophie Verseto, qui m'accueille et voilà, donc grâce à eux j'ai un bureau et je peux mettre mes affaires et donc voilà, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu me déplacer à Concarneau pendant le confinement et là en fait je me suis rendu compte que fallait absolument être près de son bateau pour j'ai des choses qui j'aurais aimé rester à Paris pour d'autres raisons personnelles mais ça s'est pas fait, voilà, bref, et du coup je suis à Concarneau parce que c'est plus simple parce que ton bateau est là, parce que tu peux naviguer, les autres copains du club sont là, les prestataires pour préparer le bateau sont là. Enfin, voilà, c'est quand même une facilité.
Ça, c'est certain. Et parmi les aventuriers que tu vas suivre, si tu faisais un petit proportion rapide, il y a combien qui sont liés à un métier de la voile, ou en tout cas de maritime, versus d'autres qui font de l'aventure terrestre ou aérienne?
Ok, bon, je vais être franc avec toi, il y a quand même 50%. entre Lost in the Swell, Under the Pole, donc c'est la plongée, Lost in the Swell, c'est du surf, les deux skippers du Vendée Globe et la Route du Rhum, Eric Billion, il y a quand même pas mal. Et après, tu vois, Mélusine Malander, c'était en moto, Christian Clos, c'était de la marche, dans des milieux, quatre milieux les plus extrêmes de la planète, il y a eu Wings for Science, des ailes pour la science, c'était un avion, enfin, c'était un aéronef, donc il y a eu, voilà, mais c'est vrai que du fait de ma proximité avec le monde de la mer, j'ai quand même plus de contacts là-dedans. J'aimerais beaucoup travailler avec d'autres gens, notamment dans le milieu alpin, etc. Parce que j'aimerais, je le dis avec honnêteté, je suis moins proche de ce milieu-là parce que je fréquente moins Chamonix, enfin, voilà, tout ce milieu. Mais je serais très heureux en fait de découvrir mieux ce milieu. Et je pense qu'il y a des réseaux qui peuvent se croiser. Et donc, je pense que ça peut apporter autant à l'aventurier qu'à moi. Ouais.
Mais complètement. Complètement. Dans ton métier d'attaché de presse, tu as une partie qui est vraiment d'apprentissage sur le terrain, c'est sûr. Est-ce que tu as une personne qui va te coacher, qui va t'accompagner sur certains points? Est-ce que tu as un espèce de parrain, tu vois, qui t'a suivi peut-être qu'au début et plus maintenant, mais qui va te former, qui va relire? Je sais pas comment ça se passe.
Alors, ce qui est particulier, c'est quand je me suis lancé tout seul. Et, alors que normalement, il y a des écoles déjà. Et puis, je pense qu'on peut être embauché dans des agences de com. Et donc, on est dans une agence. Donc, il y a des gens qui sont nos supérieurs et qui nous apprennent, qui nous donnent des outils, etc. C'est vrai que moi, j'avais rien de tout ça. C'est-à-dire que j'ai récupéré des fichiers presse. Quand tu bosses avec des gens, avec des clients, en fait, il y a des médias qui t'appellent, parce que c'est aussi ça le métier d'attaché presse, c'est de recevoir les appels entrants et de les traiter. Donc, tu constitues un adresse à ce moment-là. Et donc moi en fait j'étais vraiment à l'arrache là-dessus, c'est-à-dire que normalement, encore une fois c'est un peu technique, mais on peut acheter des licences de programmes qui permettent d'accéder au contact de tous les journalistes. Et moi j'avais pas ça pendant plusieurs années. Donc en fait j'étais vraiment en mode, je tapais le nom prénom du journaliste, mettais PDF contact, j'essayais de trouver des PDF ou sur le net où il y avait les 06 des journalistes dans leur vie privée, tu vois, je sais pas, compte rendu d'une association ou quoi. Enfin tu vois, Twitter, LinkedIn, j'envoyais des lettres, j'appelais, enfin tu vois, vraiment par tous les moyens. Mais donc du coup j'ai développé une certaine façon de tout seul de réussir à obtenir, à avoir le contact, etc. Et donc une fois que t'as le programme, bah c'est plus facile derrière, mais donc voilà, c'est quand même une sorte de corde à mon arc. Et donc on va dire que j'ai pas eu de mentor à proprement dit au-dessus de moi, référent, mais je dois pas cacher que j'ai des gens qui me sont très proches, des amis, Jérémy Berthaud, j'en parle, ma mère, voilà, qui m'ont beaucoup aidé au quotidien sur le montage de ma boîte. Et je suis très chanceux à ce propos. Et je pense qu'avoir des gens soit des gens qui ont une expérience de l'administratif, etc. Moi, je parle plutôt sur la constitution de la boîte, mais même des trucs de comment faire une facture, comment facturer, comment relancer les clients, comment se positionner, enfin des choses très bêtes, mais en fait quand on est tout jeune et qu'on se lance, c'est quand même compliqué quand on a une maison d'édition qui genre dit 200 livres à l'année et qu'on doit faire sortir une, on est là tout penaud, genre oui ben je vous demande de temps, enfin voilà. Donc ces gens-là, ils m'ont donné confiance, ils m'ont appris, ils m'ont donné des fils, ils m'ont donné des conseils, voilà. Et si c'est pas des gens plus âgés, je pense qu'avoir aussi un cercle d'autres freelances qui ont les mêmes problématiques, même structure de société ou qui passe par les mêmes questionnements de avoir un comptable, avoir un avocat, etc. et qui ont fait ces démarches un peu avant ou qui sont en train de le faire, c'est hyper intéressant pour voilà. Et à ce titre, on a créé un collectif avec des amis qui s'appelle Uptown.
Okay.
Uptown parce qu'on était rue d'Hauteville. Et on était 7-8, je sais plus. Donc la version 1 est terminée. On a créé une nouvelle version dans un autre lieu. Et c'est que des communicants dans le milieu du voyage et de l'outdoor. Donc il y a un rédacteur en chef, Mathieu Ross, de Snow Magazine, Ski Magazine, Eric Carpentier, qui est journaliste aussi, Amélie Deloffre de Deux Jours pour Vivre dont je t'ai parlé, Arnaud Hilzer, Victor Roque, Camille Balduc, bref des gens. Et on a un site, c'est uptown.paris. Et en fait, voilà, au quotidien, avoir ces gens à dialoguer nos problématiques, c'est hyper important. Donc, pour répondre à ta question, non, pas de mentor. Je sais que je dois en avoir un. Je l'ai pas trouvé. J'ai pas eu cette rencontre, mais je le conseille. Et sinon, se faire un réseau de gens qu'on peut appeler facilement, quoi.
Et tu vas avoir des aventuriers ou d'autres personnes qui te fascinent en particulier ou tu vas admirer en particulier?
Alors, au risque d'en choquer quelques-uns, moi, Mike Horn, il me fait pas rêver.
Non, mais je t'entends.
Je n'ai lu qu'un seul livre de Sylvain Tesson, Le Petit Traité sur l'immensité du monde. C'est mal, sachant que j'ai... Voilà.
Mike Horn, il n'est pas français, donc à la limite, tu peux t'accorder. Mais Tesson, c'est quand même un joyau de l'aventure française. Ouais, donc,
je dois le lire, je sais. Je sais, je me le réserve en fait. Petite Madeleine de Proust. En fait, il y a les. C'est pas une Madeleine de Proust, pardon, mais c'est un petit. Je sais qu'un jour, si j'ai un truc à faire, je peux ouvrir un bouquin de Tesson et je sais qu'il y aura de la qualité derrière. Moi, en fait, les anciens, je trouve, ont beaucoup à nous raconter. Donc j'ai bossé. C'est aussi parce que j'ai bossé avec Pauline. Enfin, j'ai pas bossé avec Pauline Victor, j'ai bossé sur la biographie de Pauline Victor.
Ouais.
Donc Pauline Victor, on l'a dit au début du podcast, donc explorateur du XXe siècle, qui en fait a fait les choses quand même assez engagées. Pour reprendre sa vie, il est parti au Groenland deux fois avant la guerre avec ses compagnons. Il a fait un travail d'ethnologie seul dans un village sur la côte est du Groenland. Ensuite, pendant la guerre, alors on peut le critiquer, mais il est parti aux États-Unis. En fait, il est revenu avec des techniques américaines. Il a créé les expéditions polaires françaises, notamment avec ses machines, avec des chenillettes, ce qui lui a permis en fait d'aller plus rapidement sur des terrains compliqués. Et ensuite, c'est lui qui a initié les expéditions en Antarctique. L'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor, qui gère toute la logistique polaire sur la base du Mont d'Urville, tout ça. Bah, c'est l'Institut Polaire Pauline Victor, voilà. Ces figures-là, je les connais mal, hein, mais on a parlé tout à l'heure, Haroun Taziev, Maurice Herzog, même s'ils sont controversés à certains égards, les Cousteau, etc., je pense que c'est des gens... d'ailleurs, c'est marrant, on voit sur l'INA des vidéos d'eux où ils parlent d'écologie, enfin, ils avaient déjà tout, voilà. Et je pense que c'était un temps aussi, c'était pendant la guerre, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il fallait se bouger quand même pour, à l'époque, trouver les sous, ils faisaient des conférences à Salle Pleyel, tout Paris parlait d'eux, enfin, c'était une autre histoire. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'association Whatever, j'étais au Bangladesh, et à ce moment-là, quand j'arrive en février 2013, je rencontre des gens qui sont inconnus, mais qui sont pour moi des gens fabuleux. J'ai parlé de Gérald Simonovski, cofondateur d'Aviation Sans Frontières. C'est un monsieur qui a 5 ans. Et Aviation Sans Frontières, c'est la deuxième association sans frontières. Il y a eu Médecins Sans Frontières et Aviation Sans Frontières, qui mettent en place des ponts aériens dans des zones de combat pour amener des médecins. J'ai parlé d'Alain Conan, capitaine du Rainbow Warrior, refondateur de Greenpeace France, président de Greenpeace France, directeur de mission. Le gars, il était à Mururoa pendant les essais nucléaires français. Il s'est fait emprisonner par les voilà. Il a arrêté les baleiniers russes en Méditerranée, je sais plus quoi. Enfin, c'est un bonhomme qui a des histoires à rallonge. Et je pense que ces gens-là, ils sont fascinants. Donc voilà, moi c'est références. Roland Jourdain qui gère le fonds Explore, j'en ai parlé dans ce podcast, est pour moi quelqu'un d'inspirant parce que il a réussi à prendre de la hauteur sur son métier de skipper, donc double vainqueur de la Route du Rhum, etc. Il a cette conscience de l'écologie, etc. Et aujourd'hui, faut vraiment, si vous passez à Concarneau, que vous aimez un peu ce milieu-là, allez voir. Enfin, sinon, tu vas me dire, si ton podcast est écouté par des millions de vues, on va avoir des milliers de personnes qui vont me dire, j'explore, ils vont pas être contents. Mais c'est un lieu, en fait, qui soutient des projets d'aventure, d'écologie, de sensibilisation, d'environnement. Et il y a donc Under the Pole, Plastic Odyssey, Nomade des Mers, Low Tech Lab et tout qui sont là-bas. Et il offre du temps, des locaux et tout pour ces gens-là. Et donc, ça part d'une démarche très altruiste. Et tu vois, si on reparle de la course au large, aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle, on parle de plein de choses dans ce podcast. Il y a un truc qui s'appelle La Vague, qui est un mouvement qui a été lancé à l'Orient, tout ça, par des skippers qui se disent, mais en fait, on fait de la course au large, mais notre métier, il est contre, en termes d'écologie, c'est une catastrophe. Parce qu'on largue des voiles à la mer, parce qu'on fait des bateaux en carbone ou en fibre de verre, parce qu'on fait 36 allers-retours, les villages au départ, c'est tout le temps, c'est une catastrophe, on a tous les ans des fringues différentes parce que les sponsors machin. Et donc, c'est de réfléchir à une autre façon de faire de la course au large et de faire leur métier qui est de traverser les océans en course. Et en fait, Roland, ça fait un moment qu'il réfléchit là-dessus et je trouve que donc lui, il est assez inspirant à cet égard-là. Donc ouais, je suis pas trop intéressé par les mecs dans l'exploit, parce qu'aujourd'hui, je trouve que aujourd'hui les aventuriers du XXe siècle, c'est ceux qui étaient plutôt dans l'exploit. D'ailleurs, on peut faire une on peut faire une histoire de l'aventure. Hein. Il y a ceux qui sont allés voir les Terra Incognita, Christophe Colomb, etc. Ensuite, il y a eu l'aventure, l'exploration pour la science, hein, l'idée Charles Darwin ou pour les grandes figures. Hein, voilà. Donc la science justifie en fait d'aller loin. Et puis il y a eu un temps où ça a été l'aventure pour aller planter un drapeau. En fait, où
on les records, quoi.
Les records, voilà, ça a été beaucoup après-guerre, les conquérants de l'inutile, finalement, voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans une aventure, etc., qui est liée à l'environnement. Il faut, et aujourd'hui, moi, même ce que je fais avec les mini-transats, pour moi, ça n'a aucun sens en termes de. Je n'apporte rien à la société, si ce n'est une part de rêve et d'émotion via les vidéos, etc. Mais je n'apporte rien à notre société finalement. Et donc j'ai du respect pour les gens qui arrivent, Evra Van Den Boom avec Nature Evolution notamment, à faire de la science, à faire de l'exploration et à faire de la sensibilisation. Voilà, ça c'est des gens qui m'inspirent.
Et B, hyper complet.
Longue réponse.
Non mais hyper complet, mais c'est du coup c'est intéressant parce que t'as vraiment des protagonistes avec qui tu travailles et puis t'en as d'autres qui sont des figures de proue que tu vas suivre dans un mouvement en particulier. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de t'apporte rien avec la mini au monde, même si effectivement on peut voir ça sur pas mal de sports en particulier. Hein, je pense que c'est parce que je pense qu'il y a un peu de challenge perso aussi. Je pense que c'est bien de penser à la planète et c'est hyper important. Parfois, c'est aussi bien de penser à ce que tu fais toi en termes de défi, tu vois. Et...
Ouais, mais en fait, je suis tellement entouré de gens qui, tu vois, qui explorent les fins scientifiques ou justement, on est tellement aujourd'hui à breveter de choses où on doit faire attention aussi à ce qu'on fait, etc. Que, tu vois, je te donne un exemple là, sur ma course en août. J'ai malheureusement largué une voile à la mer. J'ai largué un spi parce que j'ai eu un problème. Et en fait, en y réfléchissant 5 minutes après, je me suis dit, mince, j'ai lâché une bâche en plastique dans l'eau, quoi. Voilà.
Ça, je suis d'accord.
Et donc, tu te poses quand même des questions sur l'intérêt de ce que tu fais. Et j'en suis désolé, quoi. J'en suis désolé. Ça se trouve, il y a une tortue qui va bouffer un bout de truc, qui va mourir à cause de ma bâche parce que, d'un point de vue très égoïste, je veux aller traverser l'Atlantique, tu vois. Donc, faut quand même se poser la question et être conscient de ce qu'on fait à cet égard-là. Après, si on pense comme ça, on arrête de faire plein de choses. Donc, c'est à moi peut-être aussi de trouver des choses au quotidien pour tenter de réparer ou de faire mieux, si je peux en être capable. J'ai pas trouvé. J'aimerais beaucoup porter les couleurs d'une ONG dans l'environnement sur mes voiles. J'ai un problème, c'est que si je fais ça, je peux pas demander à des sponsors de mettre des sous parce qu'ils ont pas de visibilité. Donc, je n'ai pas trouvé la solution pour le moment. Je lance un appel. mais non, je suis d'accord, il faut aussi penser à soi, mais je reprends sur un des trucs où tu m'as posé la question au début du podcast, comment tu choisis les aventuriers avec qui tu bosses et tout. Bah là c'est une réponse, tu vois, c'est est-ce que tu bosses avec des gens qui font que des purs kiffs perso, ou est-ce que tu choisis que des projets qui ont un sens? Mais c'est dur parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà.
Parce qu'ils sont plus complexes et souvent beaucoup plus chers aussi du fait de toute cette souciance de l'environnement en tout cas autour, quoi.
Ouais, et puis j'ai cité la Nature Evolution avec Evra Van Den Boom que je respecte beaucoup. Donc Evra, il va dans, et toute son équipe, hein, Marie et tous les autres, ils vont dans des lieux où les Lost World, ils appellent ça, les terrains un peu inconnus, et ils mènent des missions scientifiques d'exploration, etc. Et notamment, ils ont fait un gros travail à Madagascar dans le massif du Macaï, et je te dis ça comme si je connaissais par cœur, hein, mais j'ai appris ça il y a 2-3 ans, et en Indonésie, etc. Et hélas, en fait, ces projets-là, ils sont pas sexy pour les sponsors parce que c'est des projets qui sont loin, c'est de l'écologie, c'est des ONG, c'est dans un pays pauvre, et donc ça ne nous intéresse pas. Alors qu'en fait, donner des sous pour un départ de course où t'as 70 bateaux, où t'as des médias qui sont là, où t'as un chrono, où t'as un village et tout, c'est plus facile. Et donc, du coup, ces projets-là, ils sont donc celui de Nature Evolution. Enfin, je le cite, mais je connais pas leurs finances, hein, mais pour dire que les projets d'exploration, de science intéressants, il y en a peu, et c'est dommage, et j'aimerais bosser pour plus, parce que j'aimerais pouvoir, avec, je me suis dit, avec mes compétences, les mettre en avant et tout, quoi.
Bon, bah, hyper intéressant, en tout cas. Tu travailles tout seul dans ta boîte ou vous êtes plusieurs? Je me suis posé la question, comme ça fait quand même déjà 6 ans, est-ce qu'il y a vocation à avoir plusieurs personnes? Est-ce que tu as peut-être une association ou je sais pas, un comité? Ouais.
Alors, donc, comme je te disais, on était dans un collectif il y a quelques... Moi, j'étais dans ce collectif là que j'avais créé avec les copains, donc Uptown.Paris, donc on était 7-8. Donc, on était que des freelances, donc j'étais solo derrière mon... Enfin, j'étais solo sur mon activité, mais tous les jours, en train d'échanger avec eux, voilà. On avait des clients en commun, parfois. Comme je t'ai expliqué avant de lancer la mini transat, je me suis beaucoup posé la question, pardon, de développer ma société. Et développer ma société, ça veut dire recruter, en fait. Ça veut dire faire plus de choses. Je ne sais pas l'année prochaine quand je rentrerai, quand je serai déprimé après ma transat d'avoir fait ce projet fabuleux, ce que je vais faire. Peut-être que ça sera soit j'arrête mon activité ou je la modifie, ou soit si je la continue, à savoir faire de la communication pour des projets comme ça, peut-être qu'effectivement là je me lancerai sur devenir une vraie agence, on va dire, avec d'autres compétences. Ça peut être du community management, ça peut être du photographe, vidéaste, j'en sais rien, direction artistique, graphiste, je n'en sais rien, ou d'autres artistes presse. Mais c'est vrai que oui, d'un point de vue entrepreneurial, ça m'intéresserait de développer, quoi. Voilà, mais c'est complexe. Voilà, on verra, tout simplement.
Tu penses que la voile, tu vas faire ça comme une parenthèse dans ta vie, ou est-ce que tu penses qu'il y a moyen de ne pas t'arrêter et de continuer ça sur...
Alors, moi, j'ai pas fait ça pour devenir skipper professionnel à l'origine. Ça veut pas dire que si on me propose pas, je dirais non. Parce que aujourd'hui, si je trouve un gros sponsor et que dans un an, alors je suis pas parti faire la mini-transat pour la gagner. Hein. Je ne suis pas bon. Je ne vais pas gagner la mini-transat, d'accord. Mais si j'ai un gros sponsor et qui me dit bah on a aimé les vidéos, la com et tout, et que on veut continuer avec toi, bah, je vais pas dire non. Mais si tu veux, je vais pas m'accrocher à cette idée-là. Surtout que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui le font, qui la font, c'est MicroSat, pour justement accéder à ça. Donc moi, je suis pas comme eux à l'origine, mais je vais pas refuser, si tu veux, un budget, sachant qu'il y en a tellement qui veulent le faire, etc. Et en fait, ce qui est paradoxal dans ces projets, c'est que quand je suis sur l'eau, que ça fait 2 ou 3 jours que je navigue, et que je suis trempé, qu'il est 3 heures du mat, qu'il est samedi, que tous les copains ils sont en train de faire la fête, et que moi je suis au milieu de je sais pas où, j'en bave, et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert en fait? Et donc je suis habité par ces paradoxes, mais une fois qu'on a terminé la course, qu'on retrouve les copains, qu'on est à terre, qu'on débrief, que voilà, on se pose, etc., et ben finalement on se dit bah c'était chouette parce qu'en fait on a quand même exploré ses limites. On a vécu des choses intenses, on y est arrivé, on a une satisfaction personnelle. Quand j'allume mon téléphone portable et que je vois tous mes amis, ma famille, mes cousins, etc., qui ont échangé, qui ont suivi la course sur la cartographie, qui se sont posé des questions, qui ont eu peur, qui ceci, cela, et je me dis, bah, en fait, ça leur a plu aussi. Je suis pas tout seul, etc. Et donc, ça donne envie de continuer. Donc, c'est un peu sadomaso.
Mais je comprends très bien.
Mais voilà, donc la voile, ça va pas être qu'une parenthèse, parce que tu vois, il y a ces vidéos et tout ce que je suis en train de faire, et donc je suis certain que ça va laisser une trace aussi, soit parce que j'ai trouvé des nouveaux clients ou des nouveaux projets parce qu'ils auront vu ce que j'ai fait, soit parce que on va me proposer des... J'y crois pas du tout, hein, mais soit parce qu'on va me proposer un budget pour faire autre chose. Je vais te faire une confidence, et les gens qui vont écouter ce podcast l'auront. En fait, je me suis posé la question de me dire, mais pourquoi je ferais pas ces vidéos-là sur d'autres... Je fais cette vidéo sur d'autres pratiques sportives. Par exemple, je me lance un défi, est-ce que c'est possible d'aller faire une apnée de 60 mètres? Je sais pas, tu vois.
Il y a une chaîne comme ça, il faudrait que je retrouve le nom, qui fait ça, du coup, un gars qui se lance des défis et qui va les faire.
Bah voilà, il l'a fait avant moi, mais...
Non, mais du coup, c'est tout à fait intéressant de garder cette logique-là, quoi.
Et raconter, en fait, le processus à notre manière, avec pédagogique, drôle et tout, et essayer de dire que, bah en fait, moi, je suis personne, quoi, et genre, on va faire cette transat, mais je pourrais faire, ça se trouve, on peut tous, ça se trouve, plonger à, j'en sais rien, à 70 mètres, j'en sais rien, en apnée, et aller voir Guillaume Néry et d'autres gars, et voilà, donc aller voir des gars comme Guillaume Néry, Arthur Guérin-Boëry ou d'autres gars. Et non, et je me disais aussi, tu vois, tu peux faire ça dans l'apnée, mais tu peux faire ça aussi dans l'alpinisme. Ça veut dire quoi monter un 4000? Et donc tu pourrais décider de dire, bah aujourd'hui je vais, pendant 2 ans, je vais apprendre à ce que c'est que l'alpinisme et raconter ça. Voilà.
Grégoire, ça va faire une heure qu'on discute. C'était vraiment déjà génial. Ouais, ça passe très très vite.
Je suis désolé de ce monologue.
Non, surtout pas. Le but, c'est que tu parles. Avant qu'on se quitte, j'ai trois questions pour toi.
Ouais.
La première, c'est que le métier d'attaché de presse, c'est quand même un métier très particulier. Si quelqu'un demain voulait se lancer dedans, qu'est-ce que tu lui conseillerais?
C'est particulier parce que ça peut être ingrat. Et pour la simple raison que si le client passe dans les médias, bah c'est grâce à lui, parce que c'est lui le client, c'est lui qui sort le bouquin, qui fait l'aventure, ou qui sort le produit, j'en sais rien. Donc c'est bien grâce à lui. Et si le client ne passe pas dans les médias, bah c'est de notre faute, parce qu'on n'a pas réussi à convaincre le journaliste. Donc c'est un métier ingrat en ça. C'est un métier ingrat parce que, je te le dis, il y a 300 appels par ou mail par jour auprès des journalistes. Donc c'est compliqué. On n'est pas sur un métier où plus on bosse évidemment, plus il y a des retombées. Sur un graphiste, tu lui donnes une presta à faire de 3 jours, voilà, un brief et tout, il te sort une version, tu fais des retours, voilà, c'est fait. Moi, si j'appelle quelqu'un, il y a plein de choses qui font que le sujet peut sortir. Le rédacteur en chef, si moi par exemple, on m'aime pas, le journaliste m'aime pas, le rédacteur en chef, il n'aime pas le sujet, Macron se fait tirer dessus, bon bah on va changer toute la pagination je prends un cas extrême hein. Et tu as plein de facteurs qui font que le sujet sort pas, et donc c'est un travail fastidieux, et donc en revanche moi les satisfactions je trouve, c'est que au bout d'un moment, c'est prétentieux, mais je pense qu'il y a certains journalistes qui ont compris ce que je faisais et qui ont compris que je pouvais être apporteur d'histoire, d'affaires, de contenu, et facilitateur. Et donc quand le client et le journaliste ont compris ça, et ben ton métier il est complètement différent, parce que tu vas avoir une vraie relation avec le journaliste. Il va pas te considérer comme un énième attaché de presse. Il va vraiment avoir, c'est là qui est intéressant, c'est quand tu arrives à avoir une relation humaine avec le journaliste, ça devient facile, il y a des échanges qui sont plus humains et pas juste de répondeurs ou de SMS, et il y a une compréhension de l'un et de l'autre. Et quand je vais te donner un exemple, moi une fois j'ai proposé un plateau et un sujet à une émission sur France Inter. Et en fait, ils ont pris mon sujet, ils ont pris tous les invités que je leur ai proposés, ils ont rajouté Antoine de Maximi pour avoir quelqu'un un peu connu. Et genre, c'est hyper satisfaisant quand tu as écouté les émissions d'avant, t'as pensé l'émission, tu l'as proposé sous un angle, t'as eu des échanges et tout. Et là, l'émission se fait. Bah, c'est voilà. Donc le conseil, c'est il faut être un peu comme un commercial, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur de se prendre des vestes. Il faut être un peu passionné par les sujets. Il faut aimer le contact humain. Je pense qu'il faut avoir une certaine énergie, parce qu'il y a des moments où, quand t'as appelé plein de gens et que t'as pas de réponse, bah t'es dans le creux de la vague. Et je pense que c'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est comme si je m'envoyais des fleurs, mais c'est une certaine forme d'altruisme et de générosité, parce que tu parles des autres. Et que tu parles pas de toi, et que t'es un homme de l'ombre, une femme de l'ombre, et que t'as envie de te battre pour les autres, et voilà. Et donc le conseil, c'est quoi? Bah, faut se lancer. Je sais pas.
Et alors du coup, tu refais une petite liste, comment on fait pour te suivre? J'ai vu effectivement le site web, donc on va en parler.
Alors mon site web, c'est mon site web pro, hein, c'est helium.fr, H-E-L-I-O. m.fr. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Donc ça c'est pour juste voir les projets sur lesquels j'ai bossé, mais voilà. Et non, surtout sur l'aspect mini transat, j'invite ceux qui le souhaitent à aller voir les vidéos. C'est 5 fois 6 minutes. Il y a eu des gens qui les ont vus, donc a priori c'est que ça plaît. Voilà, donc faut taper mini 887, mini 887, c'est le numéro de série de mon bateau. Et pareil sur Instagram, bah, c'est mon nom prénom Grégoire Chéron. Il y a une page Facebook mini 887 Grégoire Chéron, etc. Et voilà, tout simplement.
Parfait.
Et surtout à écouter le podcast, ton podcast.
Bien sûr, la base. Et dernière question, c'est si on avait les moyens technologiques pour te renvoyer dans le temps, et que tu rencontrais à nouveau Grégoire qui a 23 ans qui débarque au Bangladesh, qu'est-ce que tu lui dis?
Waouh. si je devais me parler, j'ai envie de dire, mec, t'as fait le bon choix. Enfin ouais, continue en fait. Parce que quand tu quittes toute ta famille, tes potes, machin, à Paris, et que tu arrives au Bangladesh pour un an, c'est quand même... Bon, il y a un petit challenge, mais donc je te dis, c'est dit en février, il s'est passé des trucs de fou, hein, 2013, voilà, Et en fait, il y a eu plein d'inconnus ensuite. Qu'est-ce que je fais après le retour de Bangladesh? Et en fait, ça s'est hyper bien passé, quoi. Donc, voilà, continue. Enfin, n'aie pas peur. Vas-y, t'inquiète pas, ça va le faire.
Ça va bien,
ça va bien se passer.
Canon. Écoute, Grégoire, j'étais ravi de faire cette rencontre aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps ici avec moi. Et donc, on a hâte de voir ce que ça donne du coup, l'année prochaine pour la Mini Transat. Et surtout de suivre les prochains aventuriers que tu vas accompagner.
Ouais, mais je te remercie, moi, de m'avoir tendu ton micro. C'était un grand plaisir. Et j'espère pouvoir te donner la parole, je sais pas, à d'autres occasions pour qu'il y ait une réciprocité. Ouais.
Avec plaisir. Bon, bah, à bientôt.
À bientôt.
Salut, Grégoire.
Salut.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt !